bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h. C'est la bande originale, soyez les bienvenus avec Leïla Kadour-Boudali. Daniel
Morin,
Albert Algo, Agnès Hurstel.
Bravo.
Tout à l'heure, il y aura Tanguy Pastureau. Ouais, et nos invités sont Lolita Chama et Julie Gaillet.
Bravo.
Bravo.
On va commencer déjà par vous présenter tous nos vœux, évidemment, c'est la moindre des choses, plein de bonnes choses pour vous, qui vous retrouvez ensemble au théâtre. On va en parler dans quelques instants. D'abord, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2019, Julie?
Alors 2019 du 9, non, en 9.
Ah oui, c'est, une année trouver, ah oui, c'est ça, c'est vrai qu'il faut
voilà.
Ouais,
voilà.
Dans les
année de la meuf
sur Twitter, c'est ça?
Année de la meuf aussi.
C'est ce qui circule sur Twitter?
Non, je sais pas. Non, la fondation des femmes, circule. L'année des femmes. Voilà. Voilà.
J'aimais bien 2016. Et vous
L'année de la fraise, bien sûr. L'année de la fraise.
Il est mauvais
oui.
Comme ça.
Hein. Lolita, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter?
Comment ça, 2016?
Du 9 dans tous les sens du terme.
D'accord, très voilà. Bien, très bien. On va évoquer donc dans quelques instants cette pièce que vous jouerez à partir de jeudi prochain jusqu'au 31 mars au Théâtre des Bouffes Parisiens. Ça s'appelle Rabbit Hole. C'est une pièce d'un Américain, David Lindsay Haber. Mais avant d'en parler, parce que c'est une comédie sur un sujet grave, mais c'est peut-être sur les sujets les plus dramatiques que l'on rit le plus ou sur lesquels on a le plus besoin de s'amuser. Jouons un tout petit peu.
Oui.
Petite interrogation orale. Dites-moi quand, et surtout pas vous, Julie, quand Julie Gaillet a commencé à prendre des cours de comédie, elle rêvait de devenir une actrice, mais avec la voix d'une autre actrice. Elle
la voix de Jeanne Moreau.
Exact. Oh, ouais, ouais, mais t'as bossé, toi. Toi, t'as bossé.
Un peu.
La voix de Jeanne Moreau. Si vous voulez une voix comme ça, rauque, grave.
Ah, bah j'avais une petite voix aiguë plus jeune. Mais d'ailleurs, j'ai réussi un peu. Hein.
Ouais.
J'ai...
Ah, c'est la clope, ça fait du bien. Hein.
Alors, j'ai arrêté. Ouais, voilà, l'alcool. Merci Nagui.
Qu'est-ce qui vous touche? Non, c'est Albert qui a dit.
Je vais avoir une réputation.
Qu'est-ce qui vous plaisait dans la voix de Jeanne Moreau? Trouvez ça sexy?
Une voix magnifique. Alors, outre le fait qu'elle jouait de manière très moderne, on le voit vraiment quand on la voit jouer. Mais donc, j'allais chez le marchand de. J'allais n'importe où acheter une baguette. Bonjour, est-ce que je pourrais avoir une baguette de pain, s'il vous plaît? Je me cassais la voix complètement pour. Pour essayer d'avoir une voix plus glamour.
D'accord. Non, mais.
Non, c'est sexy. Quand on a la voix cassée, en général, on trouve ça toujours un peu sexy.
Mais votre voix est très belle, Julie. Vous le savez, elle est très belle. Merci. Pour que Lolita Chama accepte.
Quoi, Lolita?
Pour que Lolita.
Bah, moi, j'ai toujours eu la voix grave. Hein, depuis que je suis petite.
Mais ça vous va bien aussi?
Ouais. Donc
en même temps, je vous imagine pas avec une autre voix. C'est bizarre de dire ça comme ça.
Ça tombe bien. Hein.
Oui, c'est pas pratique.
Ça tombe plutôt bien. Hein.
Pour que Lolita Chama accepte d'aller à l'école, il fallait quelque chose de précis, mais quoi?
De l'argent.
Non.
Une robe.
Non. Ah, pas loin.
Une tenue vestimentaire particulière.
Ouais, mais à quel point?
Des baskets,
des chaussures de.
Une doudoune.
Un maquillage, un serre-tête.
Du rouge à lèvres.
Bah, alors, un bandeau, les oreilles de Mickey, de Minnie.
Du rimel.
Ouais, c'est du maquillage.
C'est plus maquillage.
Elle souffle.
Du mascara.
Non, elle valide.
Non, mais là, juste la question. Est-ce que c'était plus ce maquillage ou la robe de Mickey et Minnie? Parce que moi, on m'a dit que vous vouliez être déguisée, en fait.
Oui, c'est vrai. Je voulais être déguisée en chat. Ah, c'est un peu les deux. Et ouais.
Ah ouais, quand même.
Okay.
C'est compliqué.
Ouais,
j'étais déjà quelque
joueuse.
Chose.
Vous étiez joueuse.
Mais quand t'arrives en terminale habillée en chat, hein, c'est vrai.
Après, ça s'est arrêté. Hein,
aussi dingue que dans la pièce, quoi.
C'est ça.
Mais c'était quoi? Vous faisiez des fausses moustaches?
Bah,
vous...
j'avais envie d'être déguisée en chat pour aller à l'école, sinon je voulais pas y aller.
Non, mais d'accord, ça c'est un caprice. Généralement, dans ces cas-là, il se passe quoi? On est grondé.
Un caprice tous
on...
les jours pendant 10 ans, voilà.
Ouais, c'est ça. C'est génial,
non,
moment,
ça s'est arrêté quand même assez vite. J'ai pas jusqu'à 13 ans quand même. C'était dans la petite enfance.
Mais au début, vous alliez vraiment déguisé à l'école.
J'avais envie d'être maquillée comme un chat.
Ça c'est l'envie, c'est mais est-ce que la réalité?
Oui, c'est vrai, on me le faisait.
D'accord. Très quelle scène Julie Gaillet a-t-elle eu un énorme plaisir, un plaisir même particulier à jouer dans 10%?
Avec Joey Starr.
Joey Starr.
Mmh.
Ah, le petit clin d'œil à l'actualité du moment.
C'est-à-dire?
Je crois pas. C'est ça?
La scène dans le foin. La baston.
Bah,
oui, mais laquelle? Quelle scène avec.
Non, c'est une scène bien précise.
Avec Joey Starr. Ah.
Non, c'était pas Joey Starr alors. C'est une scène bien précise.
Avec Camille
mais
Cotin,
c'est vrai que c'est une vanne. C'est vrai que
c'était lié à l'actualité. C'était lié à l'actualité du moment.
Et c'est ce qui a fait
c'est
qu'on.
C'est pas faux.
Ouais.
Mais
c'était
donc.
C'était.
Je vois pas de quelle scène tu parles avec Joey Starr.
Non, moi je pense à l'actualité du
moment. Dans les buissons? Non. Pas celle avec Joey Starr.
Pas celle-ci.
Non.
Celle où je cours derrière quelqu'un.
Ouais, bah, mais non, mais arrête.
Ah ouais.
Non.
un plaquage. Pardon.
Je me souviens plus.
Ils ont pas trouvé.
Plaque un paparazzi.
Un paparazzi.
Ah, plaqué un paparazzi.
D'où l'actualité.
Mais là, la question, c'était, on a tous envie de plaquer les paparazzi, c'est pas ça le problème, mais c'était écrit sur mesure, les scénaristes ont fait exprès, évidemment, pour vous tendre la perche, c'était une demande personnelle ou c'est un hasard de la prod?
C'était un hasard de la prod, c'est une histoire vraie, c'est des histoires vraies, parce que Dominique Besnéard qui a raconté, écrit, et c'est un peu ses anecdotes et ses mémoires, et puis après on a un peu réadapté. Mais cette scène-là, spécifiquement, elle était déjà dans le scénario, et je peux vous dire que ça m'a, j'ai pris un plaisir réel et intense.
Très bien.
À faire cette scène avec la cascadeuse, on a beaucoup ri. Voilà.
Quelle phobie partage-t-elle Lolita Chama avec sa maman? Elle a une phobie.
La foule.
J'ai le droit de
le
répondre.
Le noir. Elle me connaît. Donc.
Les araignées, les serpents.
Les ascenseurs.
Les blattes. Oui. Les...
Ouais, je vais accepter parce que nous sommes au sixième étage de la maison de la radio. Voilà. Et vous êtes montée à pied?
Oui, je suis montée à pied. À New York, je monte quand même pas à pied.
L'Empire State Building.
Je me fais violence quand même. D'accord. Pour prendre un ascenseur, mais.
La claustrophobie.
J'aime pas les ascenseurs. J'aime pas les tunnels.
Et alors, pardon, les voitures, c'est un espace.
J'adore les voitures.
Mais les grandes,
non, c'est bad.
Les petites, les grandes.
Ah ouais?
Ah oui?
Non, mais une voiture, c'est. Il y a des. Enfin, nos ascenseurs sont plus grands que certaines voitures.
Oui, mais la voiture, je peux en sortir si je veux. C'est vrai, personne ne va m'enfermer dans une voiture, enfin.
Ouais. Enfin,
on ne sait pas.
Mais je
ne sais
pas
dans les. Si vous demandez poliment.
Ouh là 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 là.
C'est ça, alors que l'ascenseur, pour le coup.
On est plus mal.
Là, si je suis bloqué, je suis bloqué.
De temps en temps, Inter,
je comprends très bien. Non, ouais, je comprends. C'est tellement angoissant. Ah ouais, je comprends.
Donc j'imagine j'ai monté mes 6 étages tranquillement.
Les attractions à Disneyland, genre l'ascenseur de
la
tour de la Terreur.
Je vous rassure, Nagui, c'est pas pour moi.
C'est pas. Ok, d'accord. Non, mais j'étais resté avec les chats, avec Mickey. Vous voyez, je me dis voilà. Bon, peut-être qu'elle aime jouer. Quelle maladresse a commise Julie Gayet dans un restaurant très chic? Ça se passait à Berlin.
Elle a fait tomber quelque chose sur le client.
Elle a fait tomber un serveur.
Bien renseigné quand même.
Oh là là. Dans les interviews, vous dites que vous êtes un peu Pierre Richard. Vous êtes pas la droite.
Je ne sais pas si vous avez entendu Julie, mais à la fois vous avez donc fait tomber quelque chose, vomi.
Ah non.
Non, si, c'est ce qu'elle a dit. Elle a dit ah ouais. Elle a vomi. Non, c'est plus.
Ça, c'était sur l'anecdote.
C'est plus un éléphant, ça trompe énormément. C'est-à-dire, vous avez fait tomber toute une table.
Oui, c'est ça. La nappe est restée accrochée. C'est vraiment ce truc où tu tires
c'est
la nappe.
Génial.
Je me suis levée la nappe avec moi et. Toute la table.
Sauf qu'il n'y a qu'au cirque où les couverts restent sur la table pendant que la nappe a été tirée, c'est ça, la tout
est tombée. Ah, les comédiennes, qu'elles ne se feraient pas pour se faire remarquer. Hein.
Et j'imagine qu'évidemment, vous essayez de partir le plus discrètement possible à ce moment-là, sinon c'est pas drôle.
Là, on est un peu tétanisé, oui. Alors là, c'est vraiment... Oups, pardon.
Comment on gère ces moments de solitude?
Pierre Richard. Bah, en rigolant, l'humour.
Prochaine Zidoc.
Non.
Quel instrument de musique Lolita Chama a-t-elle appris enfant?
Le piano, accordéon, le violon,
non,
l'harmonica, la guitare, le ukulélé,
samba,
le triangle.
Non.
C'est
exactement l'opposé du triangle.
Saxo?
Non.
Le carré.
Batterie?
Non.
L'opposé du triangle.
Cymbale?
Alors c'est dans l'idée. Difficilement déplaçable.
La contrebasse.
Pas loin.
L'orgue.
La harpe, oui, bien vu.
La harpe. Oui. J'ai fait un peu de piano quand j'étais toute petite et puis après, j'ai dû choisir un instrument, donc j'ai choisi la harpe.
D'accord.
C'est très lourd, non? Assez lourd. Hein.
C'est pas si lourd que ça.
Mais on peut pas se balader
enfin,
avec ça.
On peut pas se balader avec, c'est vrai.
Voilà,
Surtout quand on prend pas les ascenseurs.
Ouais. Donc c'est vrai.
Déguisé en chat. Vraiment, une vie, ça devient compliqué.
Eh bien, c'est Lolita Chama.
Non, mais Lolita, ça veut dire que lorsque vous alliez au conservatoire ou en cours, vous y alliez sans votre harpe, il y en avait une autre qui vous attendait
bien
sur place?
Bien sûr.
Parce qu'on peut pas se balader
évidemment.
Avec son instrument dans ces cas-là.
Il y avait ma prof de harpe avec sa harpe, mais j'avais une harpe chez moi.
D'accord.
Qui est toujours
à la maison.
On a tous une harpe à la maison.
Et donc vous savez toujours jouer, dont vous vous entraînez?
Non, très bien. Sincèrement, ça fait longtemps que j'en ai pas fait.
Et ça apporte quel plaisir de jouer la harpe, parce que il y a ce contact avec l'instrument. Donc j'imagine qu'on a quoi, les vibrations de la musique.
J'avais l'impression que c'était l'instrument des fées, donc ça me faisait un peu rêver.
Ce que j'allais dire, c'est élégant, c'est une danse avec les mains.
C'est ça. Donc
ça fait mal aux doigts.
Ça doit faire mal aux doigts, non?
Pas très. Je... Enfin, ah ouais oui, un petit peu, si vous avez raison.
Un petit côté tactile.
Des boufles. Aussi,
un petit... C'est vrai.
Et le, est-ce que c'est difficile à jouer comme instrument?
C'était assez difficile, mais je crois moins difficile que le violon. Où on arrive à faire des beaux sons plus vite que le violon.
Je crois que le violon, c'est l'instrument le plus difficile au monde, ouais, parce que la note, on doit la trouver avec son oreille.
Exactement.
Et elle n'est pas marquée sur l'instrument lui-même. Bien. Parlons maintenant de votre instrument, ouais. Celui de la voix, de vos corps, puisque comédienne au théâtre des Bouffes Parisiens, avec cette pièce dont la toile de fond est le décès d'un enfant. Si on le dit ça comme ça, on se dit waouh, ça va plomber. Or c'est une pièce où l'on rit. Alors comment rire avec un drame, puisque vous êtes la maman qui a perdu un enfant. Il a 4 ans, il jouait avec le chien, il a été victime d'un accident. J'ai envie
courir
de dire
derrière le ballon, ouais, voilà le
vie quotidienne quoi, c'est-à-dire le
fait divers, ouais.
Le chien, voilà, le chien court, la voiture veut éviter le chien mais n'arrive pas à éviter malheureusement l'enfant. C'est un jeune étudiant qui était au volant de cette voiture, qui cherche lui à se faire pardonner. Et puis parallèlement à ça, le début de la pièce, votre sœur jouée par Lolita Chama vient vous annoncer qu'elle est enceinte.
Voilà, et c'est un peu cette écriture anglo-saxonne américaine, puisque vous disiez que c'est un auteur américain contemporain,
David Lindsay Hebert,
voilà, qui mélange, et il y a cette écriture très très moderne, très contemporaine, très rythmée, très quotidienne même, avec ça se percute avec la famille, avec les relations un peu compliquées d'une famille,
oui.
Comme vous avez vu, Lolita Chama, voilà, et Christian,
je suis tout à fait normale,
mais pas du tout. Et non, alors mais... vraiment, et donc très étrangement, on s'amuse. Voilà, il y a quelque chose. Et alors peut-être aussi ce rire salvateur, peut-être aussi parce que ça se passe dans une famille comme ça et ça va très très vite. Ça parle d'un couple qui ne vit pas le deuil de la même manière, comme souvent voilà dans les deuils
entre le mari et la femme, oui.
Voilà, et grâce à la sœur, leur mère, voilà, grâce à la famille, va réussir à passer ou en tout cas va trouver une façon de chacun d'accepter, de comprendre l'autre ou d'avancer.
Ils sont tous un peu déjantés, vous la première quand même,
Oui, enfin,
Lolita.
Pour rejoindre ce que disait Julie, je pense que c'est surtout, la pièce, c'est surtout l'histoire d'une famille qui se reconstruit différemment après la mort de cet enfant. Et en fait, c'est aussi sur des rapports d'amour très forts finalement entre eux. Quand on a repris le spectacle là, il y a quelques mois, j'ai redécouvert ça en la rejoignant, c'est-à-dire que ils souffrent mais ils s'aiment aussi beaucoup, et c'est comment chacun se reconstruit.
Oui, c'est la résilience, tout, c'est ça, c'est comment...
sur la résilience,
ouais. Sur la résilience.
Mais ça pourrait être un drame, voilà, un drame comme on vit un drame, c'est là c'est sur la mort d'un enfant, mais c'est un énorme drame dans une famille, et comment on le dépasse et on le dépasse
on est chamboulé, on est troublé. On est renvoyé à des idées que l'on n'imagine jamais. Jamais des parents ne pensent à la mort de leurs enfants. C'est plus la nature, l'ordre naturel des choses.
Oui.
C'est plutôt les enfants qui pensent à
celle
des
parents.
Mais
là, c'est comment gérer ce deuil-là. C'est vraiment, évidemment, c'est pas dans l'ordre des choses. Normalement, ça voilà.
Et puis il y a le regard de la mère qui ne comprend pas votre comportement aussi.
Mais qui
juge.
Mais qui a vécu aussi une histoire similaire avec
son frère,
avec son fils,
qui s'appelle Damien de mémoire et qui, ou je me trompe? Non, je crois que c'est Damien.
Non. Non, on est très... Attendez, parce que nous on a un train fou, alors on est un peu...
C'est pas Hugo ou un truc
comme ça? On est en pleine répétition, non.
En tout cas, ça n'a...
C'est super, bravo Lolita.
Moi, c'est pas moi qui parle.
Arthur.
Ça n'a rien à voir, oui. En tout cas, ce qui n'a rien à voir, c'est que lui est décédé d'une overdose à une trentaine d'années et pas du tout à un jeune âge quand il en avait 4 ans. C'est là
oui,
aussi.
Oui, et puis après,
où
c'est la façon de gérer. C'est vraiment la façon de gérer le deuil. C'est-à-dire que mon mari, mon compagnon Pascal, Patrick Catalifone.
Marcel.
Excusez-nous, on est très. Voilà. C'est
cette émission a été enregistrée à 6h du matin. Et personne n'est réveillé, il n'est pas du tout 11h19.
Donc, lui a besoin de parler, a besoin de tout conserver. Et mon personnage a plutôt besoin, elle, de ne pas parler, ne veut pas pleurer et se débarrasse, range, trie. On va dire si on devait résumer
et moi,
la
besoin
situation.
De faire un enfant.
Non, mais et la première. Ouais, oui,
et
mais
qu'on s'écoute.
La première scène, en fait, vous êtes toutes les deux en scène, vous en train de repasser, de ranger des vêtements de bébé.
Pour les donner à la Croix-Rouge.
Voilà. Et votre sœur débarque d'une manière un peu petite frappe, quoi, pour dire. D'ailleurs, elle sort d'une baston dans un bar.
Elle essaie de me faire changer d'état d'esprit ou d'être légère, comme elle l'a toujours été. C'est mon trublion, c'est ma petite sœur. Elle sait me faire rire, c'est vraiment une relation de sœur.
De la sortir de ça, ce qui ne marche pas vraiment au fond, parce que ça c'est le début de la scène, et après elle lui apprend quand même qu'elle est enceinte, et là ça va créer quand même un nouveau bouleversement pour la famille.
Comment accepter une forme de bonheur dans une drame, famille après un drame. C'est ça. On se sent forcément coupable.
Mais c'est vrai que, comme disait Julie tout à l'heure, c'est une écriture quand même qui oscille beaucoup entre un sujet très grave, mais aussi beaucoup de rire. Enfin, c'est la scène de l'anniversaire est très drôle. Enfin, il y a quand même des moments vraiment de très très enlevés et où toute cette famille.
Et vous avez surprise par les rires du public. C'est la manière dont vous en racontez.
On s'y attendait pas du tout.
C'est ça.
Ah ouais. Alors, en fait, on a déjà joué à Lyon, on a fait une tournée, là on reprend à Paris, au Théâtre des Célestins. Et c'est vrai que la première fois, avec mis en scène par Claudia, qui donc dirige le Théâtre des Célestins, et c'est vrai que la première fois qu'on l'a joué, on s'attendait pas à ça. C'est-à-dire que vraiment, les gens rient beaucoup et très fort. Aussi pleure, donc c'est très étrange. Moi, j'ai pas joué au théâtre depuis 20 ans, donc j'ai aussi ce trac assez fou. Et on les entend, c'est un rapport tellement bouleversant d'entendre les gens pleurer, rire. Enfin, c'est un tourbillon, c'est une pièce d'une. Elle a gagné le prix Pulitzer, cette pièce aux États-Unis. C'est une pièce très moderne, c'est un coup de poing, quoi. On part. Une manière de se soigner ou en tout cas de transformer.
Et ça fait du bien.
Voilà. Il faut dire qu'il y a un personnage aussi qui est hyper attachant, c'est celui de la mère, qui n'a de cesse de raconter l'histoire des Kennedy, qui est vraiment une hécatombe toutes les minutes.
C'est drôle ça.
Et, ils sont tous morts, comment la pauvre mère.
On a la sensation qu'elle essaie de donner une sorte d'exemple.
C'est sur la fatalité.
Ouais.
Sur la fatalité.
Mais même au-delà de ça.
Il y a des malédictions.
Oui, il y a des malédictions, mais au-delà de ça, c'est de dire, voyez, là, les Kennedy, c'est bien plus grave que nous, donc finalement, c'est une façon aussi de se dire que ce deuil, on peut peut-être arriver à le faire.
Ouais, bien sûr.
Et elle se compare un peu à Rose aussi, Kennedy, c'est-à-dire de dire cette mère qui a vu partir tant de ses enfants, elle dit moi aussi je vois ma famille partir.
Oui, puis elle essaye de secouer mon personnage, c'est-à-dire que c'est vraiment c'est vrai qu'elle veut être parfaite, elle veut tout tenir et être parfaite, ne pas pleurer, ne pas montrer, ne pas bouger quoi.
Et je crois que ce qui est très beau dans la pièce aussi et qui marche très fort, c'est que comme on disait cette atmosphère anglo-saxonne, c'est des personnages très précis, comme ça fait bien les Américains, et je trouve que ça ça fonctionne très bien.
Exactement.
Le rôle de Julie, la mère qui a besoin de tout contrôler, moi la sœur qui est complètement agitée et qui est très à fleur de peau, le mari fragile, la mère qui
l'étudiant coupable aussi.
Voilà. Il y a quelque chose comme ça de très précis dans l'écriture et de dessiner, et ça je crois que ça joue beaucoup.
Avec Patrick Catalifaud, Christiane Cohen-Di, Renan Prévost et donc vous, Lolita Chama et Julie Gayet, ça se joue à partir du 17 janvier jusqu'au 31 mars au Théâtre des Bouffes Parisiens. Et ça va être un succès, Père Albert.
Mais bien sûr.
Tout d'abord, je vous dérange mon père, peut-être. Vous
étiez... Non, pas du tout, j'allais boire un petit coup.
Un petit peu d'eau bénite, peut-être.
M'hydrater la glotte avec de l'eau de l'eau. De rien. Alors tout d'abord, mon cher Nangui, une fois n'est pas coutume, je tiens vraiment à vous féliciter. En effet, en ce début d'année, que je vous souhaite aussi riche en émotions qu'en bonnes actions, qu'elles soient caritatives ou boursières, vérifiez d'ailleurs sur votre iPad.
Absolument.
En ce début d'année, disais-je, que constate-je ? Eh bien, que vous avez décidé de ne plus retomber dans la rigolade systématique, la bouffonnerie fastoche et le cynisme à la mode, dont les histrions qui vous entourent encore dans ce studio continuent laborieusement à faire leur fonds de commerce zygomatique. Oui, Nangui, je vous félicite d'opter enfin pour une programmation empreinte d'une profonde humanité, comme c'est le cas aujourd'hui, avec l'invitation de Julie Goyet, coucou Julie, et de Lolita Chama, coucou Lolita. Taisez-vous, laissez-moi, c'est mon moment. Admirable, toutes les deux dans l'incarnation des deux visages de la maternité, la maman douloureuse, mater dolorosa, et la maman joyeuse, mater gaudiosa. D'un côté, celle qui pleure son enfant, et de l'autre, celle qui attend son enfant. C'est beau. Puisque nous sommes dans la compassion...
Oui, c'est de vous, mon père.
C'est de moi. Puisque nous sommes dans la... J'aurais pu bosser pour Télérama. Puisque nous sommes dans la compassion, à défaut d'attirer l'attention de votre bande de cyniques, Nangui, je voudrais capter celle des auditeurs en recherche de France Inter. Coco, les auditeurs de France Inter, sont la caméra. Attirer leur attention sur un autre deuil dont tout le monde se contrefout. Oui, je voudrais évoquer le sort tragique de celui qui, avec la sainte crèche et la dinde farcie du croupion, est un des plus beaux agréments des fêtes de la nativité. J'ai nommé le sapin. Car qui dira la misère du pauvre sapin, roi des forêts, déchu de sa gloire, naguère acheté à prix d'or et qui aujourd'hui ne vaut plus rien. Sapin dépouillé de ses atours, privé de pins et de boules, sapin à la ramure desséchée, aux branches arrachées qui pleurent de muettes larmes de sève, sapin découpé, tailladé, tronçonné, ébranché, in fine étouffé dans un sac vendu au paradoxe, au profit de handicap international supposé secourir les mutilés. Sapin jeté à la rue et sur lequel se soulagent les chiens prostatiques et les clochards en attendant d'être broyés dans une belle orgue.
Calmez-vous.
Voilà, calmez-vous. Pour vous consoler de ce génocide végétal, rendez-vous ce soir, ma camionnette, garée au bois de Boubou, rond-point de l'hippodrome d'Auteuil, pour tirer les rois. Je serai déguisé en Gaspard. Bonne fin d'émission. Merci et bonne année.
France Inter, Nadu. La bande originale.
Rabbit Hole, ça se joue au Bouffe parisien et on se posait la question, enfin on a un peu la réponse dans, dans la pièce avec Leïla. Ouais, le titre, il est présent dans la pièce, mais comment l'expliquer, comment le justifier sans déflorer ce qui se passe?
La recherche de quelque chose, ça peut être pour dépasser un deuil et ça peut aussi être les rêves ou là les univers parallèles, on va dire ça comme ça, puisque c'est cette espèce de monde.
Il y a le côté Alice un peu au pays des merveilles.
Le terrier, Rabbit Hole.
C'est le terrier et là puis, dans l'histoire, c'est justement c'est le trou noir, très américain, le trou noir, c'est le trou noir.
Des spécialistes, voilà. Ouais, c'est ça, des scientifiques.
On ne comprend pas, mais qu'on... justement le personnage de celui qui a tué l'enfant de Becky,
Jason
pardon,
joué par Ronan
tous les prénoms hein,
on est très fort, mais c'est parce que c'est pas grave. Voilà.
On revient et lui enfin essaie de la faire accéder à cette dimension justement d'un univers parallèle, de quelque chose qui est un peu de l'ordre de l'invisible mais qui aide à guérir aussi.
Et puis il y a les deux comportements, celui du papa, celui de la maman face à cette situation qui est très différente. Elle est presque j'allais dire hormonale, c'est peut-être pas le mot le plus délicat, mais est-ce que les femmes se reconnaissent dans votre comportement? Est-ce que c'est un comportement très...
Ça peut être complètement
l'inverse. D'être dans le déni,
ça peut être un homme et une femme, non, c'est pas du tout une question de
sexe ou de genre.
De sexe, pas du tout, c'est vraiment une façon d'aborder, d'affronter, de se retrouver face à la mort, face au deuil, chacun le vit, on a tous vécu un deuil, pas forcément d'un enfant, mais on le vit pas.
Non, on s'est tous posé la question de savoir est-ce qu'il fallait garder un objet, garder une pièce telle qu'elle est, ou la transformer en musée, enfin c'est assez particulier aussi dans le comportement.
Mais disons que lui retrouve, grâce à des groupes de parole, alors c'est très américain, mais cette idée d'aller parler, ça peut être voir un psy, voir quelqu'un, être accompagné, et voudrait que sa femme fasse la même chose, et elle ne veut pas de ça, elle est plus dans l'imaginaire et elle va trouver, alors c'est aussi si ça nos métiers, hein, comédien, d'aller chercher ailleurs, autrement, elle a envie de trouver sa façon. Et très étrangement, quand elle affronte, et c'est quand même terrible, celui qui a tué son enfant, donc dans la pièce, c'est très très fort ce moment-là, c'est lui qui va lui apporter la solution, puisque lui croit aux univers parallèles, à la physique quantique, et tout coup, un monde s'ouvre et elle se dit que peut-être quelque part...
Et ça questionne aussi les rapports amicaux, aussi, c'est-à-dire comment se comportent les proches lors d'un décès. Est-ce qu'on doit s'attendre à ce qu'il se manifeste? Ou est-ce que
mais j'avais joué dans un film, moi, il y a très très longtemps, qui s'appelait Clara et moi, sur ça, sur la maladie, comment on peut, face à quelqu'un qui est malade, on a tous, ne pas juger, chacun on a sa propre façon de réagir. Et à l'époque, j'avais perdu une amie très très proche de moi, et j'avais voulu jouer Clara et moi, parce qu'elle s'était séparée de son compagnon depuis 7 ans, et il avait quitté au moment où elle était très malade, et j'avais pas compris, je me disais, mais comment il a pu faire une chose pareille? Et elle ne lui en voulait pas, elle dit, je veux pas qu'il reste par pitié. Et j'avais décidé de jouer dans Clara et moi à cette époque, cette femme qui tombe malade et son compagnon qui l'a quitté.
Pour la mémoire de votre ami.
Pour la mémoire de mon ami. Mmh. Et la même chose là sur le deuil, sur la façon dont on vit le deuil, on passe ces étapes, chacun ne pas juger.
C'est un très beau film d'Arnaud Viard.
Voilà, on en parlera tout à l'heure avec Pascal Neveu, qui est psychanalyste et psychothérapeute, qui est notre invité tout à l'heure dans la deuxième partie. Ouais, et on évoquera avec lui justement la manière dont on peut gérer entre guillemets ce genre de drame, parce que c'est vrai que, en tout cas dans notre culture occidentale, on est moins prêt que certaines civilisations ou certaines cultures beaucoup plus comment dirais-je, proches, en tout cas qui peuvent même faire une fête de certains décès ou enterrements. On va en parler dans quelques instants. Mais d'abord, voici...
Qui ça ?
Le sourire d'Agnès et la joie d'Agnès sur stage.
Bonjour.
Bonjour, bonjour, bonjour. Bonne année à toutes, bonne année à tous. Je vous la souhaite drôle, épique et sans violence.
C'est gentil.
Lol. Pour les adeptes de l'Asie, pour Yann Moix et pour les autres, pas de panique, le nouvel an chinois arrive dans quelques semaines à peine. On passera de l'année du chien de terre à celle du cochon de terre. Une année qui démarre pour moi sous le signe du jeu, puisque je vous propose ce matin de choisir entre trois sujets d'actualité pour ma chronique. Pour la galette des rois non genrés, tapez 1. Pour Yann Moix non censuré, tapez 2. Pour la vie en général, tapez Daniel. Eh bien, figurez-vous que c'est exactement trois fois la même chronique. Tout d'abord, certaines boulangeries à tendance progressiste ont proposé ce week-end des galettes des reines. Alors moi, je veux bien le progrès à tout bout de champ, l'écriture inclusive, non sexiste, une bouchère, une banquière, une pompière, une mère célibataire, tout le monde sous la table pour la galette. Oui, mais non, on n'a pas fait tout ce chemin, tous ces hashtags MeToo pour au final tirer les reines. Je refuse. Deuxièmement, quant à Yann Moix... Tout pareil, oula. Il aime la galette, mais savez-vous comment, Nagui ? Seulement
jeune,
quand elle est bien faite, oui. Avec du beurre dedans. Je rappelle les faits. Dans une interview sortie vendredi matin dans Marie-Claire, Yann Moix parle de son désir d'homme de 50 ans qui ne tombe amoureux que de femmes plus jeunes, fraîches et si possible asiatiques. C'est vraiment dingue, c'est vraiment un être à part. La journaliste Marianne Mérès, 45 ans et rédactrice en chef du magazine, lui demande « Pourriez-vous aimer une femme de 50 ans ?» Il répond « Oh non, ça faut pas exagérer, c'est pas possible. Pourquoi ?» Bah expliquez-moi, je trouve ça trop vieux, elles sont invisibles, le corps d'une femme de 25 ans c'est extraordinaire, le corps d'une femme de 50 ans c'est pas extraordinaire du tout. Déjà ça se voit que Monsieur Moix n'a pas vu ma maman qui est sublimissime à 55 ans.
C'est vrai.
Un grand moment, de... calme-toi Daniel, un grand moment de promo donc, et sûrement un grand moment d'ego boost hein, pour la journaliste en face de lui. Je l'imagine Marianne Mérès en train de prendre des notes, de le regarder fixement et de se dire intérieurement, mais il est sérieux là ? C'est Yann Moix qui est en train de me dire que je suis invisible. Moi, Marianne. Mais tu crois qu'il a raison? Mais c'est vrai que je me sens hyper invisible ces derniers temps. Je veux dire, là, les fêtes de Noël, ma belle-mère. Mais expliquez-moi, Yann, pourquoi?
Parce que.
Mais même pas une pelle, même pas une pipe. Enfin, je veux dire, par exemple, si on est sur une île déserte. Non, toujours pas. Je suis trop vieille. Non, mais qu'est-ce que je raconte? Mais ressaisis-toi, Marianne. Il est dégueulasse, Yann Moix. Ma vieille, tu pédales dans la frangipane, là. Moi, j'en veux pas de sa demi-molle sous Xanax. Je me casse, putain, je me casse. Je me casse avec un copain de mon fils. De toute façon, la presse écrite, c'est fini. Il s'est évidemment attiré les foudres de plein de femmes sur les réseaux. Palme de la meilleure réponse hier soir sur Twitter par Marina Foïs, 48
génial,
ans.
Marina
plus que 1 an et 14 jours pour coucher avec Yann Moix. Inch'Allah, ça se fait. Franchement, j'adore. Mais le problème dans cette interview, c'est que Yann Moix parle à Marianne Mérès de son désir comme s'il était sur le divan de son psy. C'est-à-dire qu'il est en promo pour son bouquin, exactement comme vous le faites là. Mais il a la conversation qu'on a avec son thérapeute. Parce que finalement, il couche avec qui il veut, Yann Moix, on s'en fout complètement. Et le désir, la pensée érotique, c'est jamais politiquement correct, jamais, c'est jamais moral, les pulsions sexuelles. On est tous en lutte avec nos pensées érotiques, on est tous ambivalents. Moi la première, je suis ambivalente, je n'aime pas la presse féminine. Je la lis quand même, parce que ça m'embêterait de pas avoir un teint frais au mois de janvier. J'aime pas le yoga, j'en fais quand même. J'aime pas les afterworks, mais faut bien baiser. Et dans la journée, par exemple, dans la journée, je déteste qu'un homme me donne des ordres. Je déteste ça. C'est vrai que la nuit, je suis ambivalente. Mais ça, je le dis à ma psy. Je lui dis, mais merde, mais est-ce que c'est normal? Je veux dire, on est en 2019, je suis quand même une femme libérée. Est-ce que c'est normal que mon sexe désire la nuit, que mon cerveau combat la journée? J'ai l'impression d'être dans un délire horrible. Est-ce que ça veut dire que mon cul est anti-féministe? Est-ce que ça veut dire que j'ai hérité sans le vouloir d'un espèce de vaginou patriarcal? Je veux dire, moi aussi, dans la rue, je mate les culs des meufs de 25 ans. Je suis une truie, balance ta truie. Mais ça, je le dis à ma psy, pas à la radio. Bref, la conclusion c'est quoi? C'est que la vie en général, bah, c'est comme la galette. On l'aime quand elle est bien faite, avec du beurre dedans.
J'aime la galette.
Pas avec du beurre dedans.
Bonne semaine les amis.
Bravo, bravo Agnès.
C'est super.
Ah ouais, super, ça fait du bien.
Ah c'est trop gentil.
C'est une leçon pour les acteurs aussi, ce que vous faites, les chroniqueurs, parce que c'est...
Et on embrasse Yann Moix, évidemment.
On reprend la promo et je ne parle pas de mon ami qui est mort.
Alors je recommence.
Non, c'était bien et du point de vue féminin comme masculin.
Tout à fait.
Voilà, nous applaudissons à ce texte drôle et intelligent et ça fait du bien. La musique est présente dans cette pièce de théâtre que vous jouez, Rabbit Hole, qui sera au Bouffe Parisien, puisqu'on entend Al Green.
Ouais.
Mais vous savez que après...
Non, c'est pas celle-là, non, c'est mais c'est Al Green.
C'est Al Green.
Al Green.
Ah, c'est une autre chanson d'Al Green que
ouais,
vous
jouez. C'est une autre, pardon. Mais c'est pas grave. Hein. Voilà, il y a des extraits, il y a des vidéos, c'est très cinématographique.
Voilà.
Aussi.
En tout cas, dans le texte, c'était cette chanson que j'avais,
oui,
que j'avais
lu. C'est quand Patrick Catalifo, donc mon compagnon, ouais, a envie tout à coup de se rapprocher.
Voilà.
dans un couple, c'est leur, voilà.
La chanson qui devrait exciter le couple à nouveau.
Ou qui leur rappelle.
Leur retrouvaille ou leur
amour. Ou...
Et alors, quel titre jouez-vous sur cette
chanson? C'est une autre chanson,
mais.
Ouais, je sais pas.
C'était Together. Je sais pas ce qu'on est ce matin.
Il y a Anthony de Johnson, surtout.
Excusez-moi, êtes-vous Lolita Chamaï, Julie Gagné?
Non, c'est pas ça.
À quel point c'est un hologramme, on s'est moqué de moi.
Vous savez, on sait jamais vraiment qui on est complètement.
Comme
donc
médium.
On répète.
En tout cas,
on commence la semaine prochaine.
La bande originale de vos vies, Julie et Lolita. On va commencer fin des années 80, début des années 90. Julie Gayet, vous écoutiez Alain Bachung.
Madame rêve d'atomise et de cylindres aussi longs qu'ils sont les seuls qui la remplissent de bonheur.
Elle est sublime cette chanson, Madame Rêve.
Madame Rêve.
Et de quoi rêvait-elle dans ces années 80?
De devenir comédienne, hein. C'était ça l'idée.
Et c'était pas forcément le chemin a priori qui était celui que vos parents envisageaient pour vous à l'époque?
Pas du tout le schéma familial, donc la seule comédienne, le petit canard noir, donc c'était un peu, voilà, ouais, c'était plutôt fait des études.
Et voilà que vous soyez majorette, c'est ça.
Non, faut dire quand même que vous venez d'une famille.
Non,
où
c'est
les...
pas rassurant, je pense que c'est pas rassurant pour une famille, avoir ouais, sa fille qui arrive maintenant, je voudrais être comédienne.
Son papa, que j'ai la chance de connaître, est un immense spécialiste, un docteur.
Professeur de chirurgie digestive et de famille de médecins, ouais, une famille de, voilà, plutôt d'intellectuels et de...
Et de femmes aussi, surtout qui ont
et de femmes, chirurgiens, chercheuses. Donc sa grand-mère à lui, la grand-mère de mon père, mon arrière-grand-mère, faisait partie des toutes premières femmes qui ont été médecins. Elles étaient trois en 1910. Et à l'époque, elles ne pouvaient pas d'ailleurs être médecins, puisqu'on disait... Elles devaient voir les hommes nus.
Ah ouais.
Et donc son père lui a dit « Ah non, il n'y aura pas de pute dans la famille, ça ne se faisait pas. Ouais. » Donc elle est devenue chercheure, comme Marie Curie, pour ne pas voir les hommes nus.
Et vous avez cassé cette filiation médicale. Vous avez
non, je suis arrivée en disant
je
veux
voir des hommes nus.
Alors à mi-temps,
je veux voir des hommes nus.
Est-ce que vous avez eu ce sentiment de casser?
Non, là c'était... Mais peut-être de casser ou en tout cas de me dire pas avoir cette utilité. On a l'impression d'être comédien, de ne pas forcément être utile. Moi j'ai eu à un moment donné...
Alors que les médecins sauvent des vies, ouais.
Voilà, sauve les vies, avec l'impression d'une utilité et d'être... Mais voilà, la première fois que je suis rentrée dans un cours de théâtre, ça a été une révélation. Et je me suis dit que... Et c'est un peu ce qu'on vit, que je vivrais plein de métiers, que je ferais plein de métiers, et peut-être un jour chirurgien, digestif. Voilà, mais c'est vrai que j'aime beaucoup aller au bloc, aller voir les opérations.
Vous avez été aussi à l'école du cirque. Qu'est-ce que ça apporte, l'école du cirque? C'est utiliser l'espace, prendre conscience de son corps?
C'est apprendre à... Alors moi, j'étais fil-de-feriste, donc funambuliste. Wow. C'était cette idée de concentration extrême et d'être très détendu en même temps, de devoir arriver à un but. Fil-de-feriste, funambuliste, marcher sur un fil, être comme ça. Et c'est ce que j'aime dans les rôles. Alors moi, j'ai beaucoup de pudeur et toujours du mal à faire la promo, à parler de moi. Je me cache plus derrière les rôles. Je crois que c'est ce que je préfère.
Oui, mais quand on voit le parcours, c'est-à-dire étudier la comédie, école de cirque, du chant lyrique, on imagine que ce sont autant d'accessoires qui vous servent aujourd'hui à jouer.
Bah, tout sert. Oui. Même à être allé voir des opérations et accompagner mon père tous les week-ends à l'hôpital pour ceux qui n'avaient pas de visite, tout sert. Mais j'étais curieuse et en tout cas l'école du cirque, ce que j'aimais plus que tout, c'était le fait qu'on répète, qu'il n'y ait pas de hiérarchie, qui est quand même très différent au cinéma. J'adorais cette ambiance d'arriver, le chapiteau, on monte le chapiteau, on prépare, on travaille, c'est un travail. Le métier d'acteur, on travaille comme des fous. Toi, tu as fait le conservatoire.
Bon, on va en parler justement.
T'as pas fait le conservatoire,
toi? J'ai fait le TNS à Strasbourg. Mm-hmm.
On va en parler dans ces...
Mais voilà, moi j'avais cette sensation de devoir apprendre, chercher, être curieuse. Et le cirque, c'était voilà, une autre formation.
Vous écoutiez, vous, Lolita Chama, la chanson de Prévert.
Oh, je voudrais tant que tu te souviennes.
cette chanson était la tienne.
Et à ces, dans ces années-là, Lolita, c'est vos premières, premières présences sur un plateau de cinéma, déguisé en chat, je ne sais pas. C'était
Chabrol, non ?
Ouais, une affaire de femme.
Oui, ça, c'est bah, premier... ça c'était un hasard de la vie, on va dire, de ma vie, de me retrouver sur le film de Chabrol. Mais oui, c'est quand même un souvenir de cinéma et de vie très fort, une affaire de femme. Il y avait Marie Trintignant, il y avait François Cluzet, ouais. Il y avait ma mère, il y avait Dieppe.
Et qu'est-ce que cette chanson vous évoque ? Alors, si vous avez demandé, si vous la colliez à ce souvenir-là, est-ce que vous avez des images particulières en l'entendant ?
Après, la musique, ça, c'est toujours un peu des images aussi inconscientes, mais c'est une chanson très mélancolique de Gainsbourg, comme ça, et c'est vrai qu'elle m'évoque le souvenir, elle m'évoque le avant. Donc, voilà, elle m'évoque ce qui n'est plus, même si les souvenirs, c'est toujours là, mais...
Début des années 2000, Julie Gayet, vous écoutiez Philippe Catherine.
J'adore.
Et voilà.
Luxor.
C'était compliqué d'être dans une loge avec moi à ce moment-là. Je mettais ça à fond dans la loge.
C'est
et,
vrai. Ouais.
Et vous enchaîniez à cette époque-là des films avec des... C'est des registres très très différents où vous changiez d'apparence. C'était vraiment des rôles... c'était une sorte de grand puzzle en fait.
Ben voilà, j'adore, c'est ce que j'adore. Ouais. C'est changer de tête, plonger dans des rôles, rencontrer des metteurs en scène qu'on ne me reconnaisse pas. Et d'ailleurs, on me reconnaissait pas parfois. J'avais fait une interview avec un journaliste, il m'a dit « Je suis désolée, j'ai vu aucun de vos films. » Et puis en fait, il en avait vu cinq. Je jouais, je changeais, sans savoir.
Il avait bien bossé l'interview.
Oui, il avait bien bossé, il était. C'était drôle, mais...
Et finalement, est-ce que c'est le plus beau compliment qu'on puisse faire à une comédienne, ouais, alors qu'on pourrait te dire...
Alors, allez, moi, ça a été l'un des plus beaux compliments, et j'espère que... Mais alors après, c'est vrai que c'est peu français. Je me suis rendu compte avec le temps que le fait de grossir, maigrir, avoir les cheveux roses, blonds... Enfin, j'ai vraiment eu toutes les couleurs. Je suis passée par... Il faudrait que je fasse un jour une espèce de kaléidoscope de toutes ces têtes de cette époque. Ouais. Mais j'arrêtais pas de tourner et de tout essayer, des premiers longs, des films difficiles. J'adorais ça et en même temps, mon agent de l'époque m'a dit mais Julie, on ne sait pas qui tu es et comme s'il y avait un besoin.
Il faut le mettre dans une case.
On voudrait savoir dans quelle case te mettre et je le regardais, j'ai dit mais non, justement, je ne veux surtout pas et je suis pas très intéressante d'ailleurs et je me cachais vraiment derrière les rôles. Donc j'ai toujours eu du mal comme ça à imposer et puis alors avec le temps. Comme Lolita, avec le temps, les choses se mettent en place avec le temps. On comprend peut-être tous ces choix.
Ouais, et vous racontiez dans les interviews que Mastroianni a été aussi un élément important dans votre carrière, de vous dire, en gros, fais ce qu'il te plaît, ne sois pas une diva.
Non, ça c'est Chagrin d'amour, ça fait ce qu'il te plaît.
ça a été une des très très belles rencontres que j'ai eu la chance de rencontrer Marcello Mastroianni, qui effectivement lui disait, quand j'ai commencé, c'était le théâtre, le grand art, donc ce que je suis en train de vivre là en ce moment, et c'est un bonheur incroyable. Mais le cinéma, c'était pas à son époque, quand il a commencé, c'était vraiment mal considéré. Et tu vois, aujourd'hui, le cinéma, et j'ai travaillé avec des amis, aujourd'hui on dit la télé, c'est pas grand chose, n'écoute personne, fais ce que tu veux. Et c'est vrai, il avait raison. Aujourd'hui, les séries sont bien plus populaires que le cinéma. Et donc, Marcello disait tout le temps, n'écoute personne. Écoute ton instinct, ton envie, les rencontres. Et il avait cette chose merveilleuse d'être humain.
Pardon, mais c'est surtout la qualité qui a le plus d'importance. Parce que les séries deviennent, entre guillemets, à la mode, parce qu'elles sont d'une qualité totalement différente de celle qu'il pouvait
c'est
y avoir dans les
années... C'est une nouvelle écriture aussi, mais... je sais pas. À l'époque, il avait fait 170 films, et il me disait, j'ai fait 170 films. On se souvient de combien ? 25 ? 30 ? Donc, il en a fait des très bons films dont on ne se souvient plus de Marcello.
Oui, mais on ne peut pas non plus comparer L'Homme du Picardie avec Casa de Papel, quoi. Je veux dire, dans les séries aussi, ont évolué.
Mais quand on part dans un projet, et à l'époque, moi, je tournais beaucoup, il y avait des projets... on part dans un projet, on ne sait pas toujours où ça va et comment ça va se passer, et c'est ça le...
Lolita Chama, vous écoutiez au début des années 2000.
Rock.
Vous l'avez vu en concert ?
Ah non, ça pas du tout.
Mais vous êtes trop claustro pour aller au concert aussi ?
Non, j'adore les concerts. Bah non, je vais au théâtre, je vais au concert. Non, non, ça j'ai pas la claustrophobie de la scène.
Non, parce qu'on peut être, être serré dans la foule.
Je peux ressentir une petite panique si tout d'un coup il y avait trop de monde. Mais non, j'adore les concerts.
Prince Purple Rain, ça c'est les années 2000. Que se passe-t-il dans sa vie, Leïla ?
Eh bien, c'est la vie moderne. C'est un peu votre vrai premier rôle au cinéma de Laurence Ferreira Barbosa. Et vous racontez que vous êtes très agressé et très agressif sur ce tournage.
Non, bah, là vous le dites, je le dirais plus softement aujourd'hui, mais c'était le premier film que je faisais. J'étais une adulte, j'avais 15 ans et c'est vrai que tout d'un coup j'avais une adulte mineure mais une adulte mineure. J'ai été adulte très vite dans ma vie. Grown up, comme on dit. Et en même temps pas du tout. Enfin bref, ça c'est un autre sujet.
Sinon ça va. Mais
non, c'est vrai que c'était pour moi quelque chose de nouveau et qui venait un peu dans ma vie comme ça, de façon intrusive. J'étais au lycée, au collège même, début du lycée. Mais j'avais l'impression que c'était pas ma vie encore de jouer dans des films. Et en même temps, rétrospectivement, c'était une expérience très forte, le film de Laurence. Et c'est un film que j'aime beaucoup. Et voilà, mais c'était mon premier tournage comme actrice. Et donc c'était particulier, sauvage.
Vous vous revoyez dans les films ?
Celui-là, je ne l'ai pas revu depuis très longtemps, mais ça peut m'arriver de me revoir dans les films.
Ouais. C'est pas douloureux ? Enfin, souvent, les comédiens et comédiennes disent que c'est douloureux.
De moins en moins. Parce que je pense que quand on avance dans ce métier, on prend quand même, heureusement, un peu de distance. Et j'arrive de plus en plus à me voir comme quelqu'un qui n'est pas moi aussi. Ouais. Heureusement, parce que
pour
sinon...
Pour les proches aussi, d'ailleurs, c'est bizarre. Ils mettent du temps à s'habituer à nous voir dans d'autres rôles.
Et vous avez eu beaucoup de femmes qui vous ont dirigé. Beaucoup de réalisatrices vous ont fait
Claire Denis,
tourner.
Claire Simon, Colline Serrault.
Laetitia Masson, Sophie Le Tourneur plus récemment, Élie Girard.
Et même Claudia Stavisky maintenant pour la mise en scène au théâtre.
Et même au théâtre, j'ai fait beaucoup de spectacles avec des femmes. C'est un hasard, j'ai envie de dire... heureux ou pas.
Il n'y a pas de différence notable dans le travail.
Si, je pense que le travail avec des femmes et avec des hommes est différent, mais au fond, moi, je choisis pas un projet parce que c'est dirigé par une femme ou par un homme. Je le choisis parce que quelque chose, il y a un souffle et il y a une intelligence et une rencontre avec quelqu'un qui fait que je vais faire un film ou une pièce de théâtre. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé avec des femmes, aussi avec des hommes, et j'espère que je ferai des projets maintenant avec des hommes aussi.
Mais c'est elle qui vous donne envie de réaliser, justement, puisque vous avez été attirée par ça.
Les femmes, vous voulez
dire ? Par la réalisation, oui, c'est de suivre leur exemple en disant une femme peut diriger un plateau. Et...
Je vois ce que vous, enfin c'est intéressant ce que vous dites. C'est vrai que j'ai beaucoup d'admiration aujourd'hui. Il y a quand même toute une génération de femmes en ce moment de mon âge qui réalisent des films. Et je trouve qu'elles ont beaucoup de courage parce que il y a vraiment comme ça. Les femmes ont pris le pouvoir de quelque chose et c'est quelque chose d'assez fascinant, je trouve, parce que déjà faire un film c'est tellement difficile et ces jeunes femmes qui ont cette idée fixe et qui vont jusqu'au bout, c'est vrai que voilà, ça donne soi-même envie de réaliser des choses.
En quoi c'est plus courageux pour une femme que pour un homme de réaliser un film ?
Je sais pas si c'est plus courageux, mais je pense que pendant longtemps, il y avait objectivement moins de femmes qui réalisaient des films. Mmh. Et voilà, maintenant l'équilibre commence à se faire, c'est courageux aussi pour un homme, vous avez raison, c'est pas forcément plus pour une femme.
Mais vous avez un point commun toutes les deux, vous êtes productrice, vous avez chacune monté une société de production.
Plus Julie que moi je me suis associée
avec Raphaël Persona.
Ah oui, vous savez tout.
Ben oui.
Non, ça c'était il y a très longtemps. Oui, j'avais monté une petite boîte de production avec Raphaël Personnaz.
Voilà, c'était pas pour faire de l'huile d'olive en Grèce, hein, c'était pour faire des films
c'était
en France.
C'était pour produire deux courts-métrages, un que lui avait fait et un que moi j'avais fait.
Ah voilà. D'accord, ok. Et Rouge, moi. Rouge existe toujours. C'est Rouge.
Ah oui, ça existe toujours, plus que jamais.
Plus
même.
Que jamais.
On l'a monté en 2007. Voilà, c'est une société de production où justement, alors j'ai fait le choix de ne pas jouer dans les films que je produis pour que ce soit bien clair que je produis des films comme productrice. Et j'ai vraiment... Donc cette année, on a un film dans la petite boîte des Césars, ceux qui votent, L'Insulte, qui était aux Oscars l'année dernière, un film de Ziad Doueri. On a coproduit un documentaire sur Mandela, qui s'appelle Le procès contre Mandela et les autres. Mmh. Voilà, qui était en salle. On distribue maintenant aussi, donc c'est vraiment une passion.
Vous avez produit de superbes films, ouais. Grave, de Julia Ducournau, c'est un superbe film, on parlait de l'insulte, mais vraiment, c'est un beau catalogue, maintenant.
Mais c'est dans cette époque où j'ai beaucoup tourné, où je faisais, en fait, comme comédienne, un peu ce que j'aurais aimé faire comme productrice, c'était mettre en avant des metteurs en scène ou des metteurs en scène, des femmes, hommes-femmes. À un moment donné, justement, au lieu de m'excuser ou de me cacher, là, je me suis dit, ça, pour le coup, suivre, j'ai monté une société de production, je vais assumer, je vais dire, voilà, ça c'est mon choix, c'est ce que je suis, ce que j'aime, le cinéma que j'aime,
et donc pas la réalisation. Rouge International. Et là, vous n'avez pas envie de diriger.
Alors, j'ai une grande admiration pour les metteurs en scène, les accompagner, et je pense qu'il faut avoir un univers. Si je suis interprète comme comédienne, c'est parce que je plonge dans l'univers d'un metteur en scène, et productrice, j'accompagne un metteur en scène. Donc, ce que j'aime, c'est les auteurs, les metteurs en scène, et moi, je me sens vraiment à la fois interprète, l'outil pour un metteur en scène. Et là, Claudia Stavisky qui nous a mis en scène un texte, David Lindsay-Haber, au théâtre. Et comme productrice, c'est la même chose, c'est la même démarche. Je suis l'œil extérieur du metteur en scène. J'essaye de trouver la justesse, la cohérence.
Vous n'avez pas envie de vous de réaliser ?
Non.
Pas tout de suite.
J'ai juste réalisé un documentaire sur la question des femmes dans le cinéma. Voilà, justement, puisque vous parliez de ça.
D'accord.
Il y a 27% seulement de réalisatrices aujourd'hui. En France, c'est pas 50%, alors qu'il y a 50%, c'est 50-50 dans les écoles. Pourquoi il y a 27% seulement après? Et on est le pays où il y a le plus de réalisatrices au monde.
Oui.
C'est-à-dire que sinon, dans le reste du monde, c'est 10%, 3%, parfois elles sont une. Ouais. En Corée, il y a une fille, au Japon, elles sont trois. Donc j'ai fait un documentaire sur cette question-là. Ça m'intéresse effectivement, la question des femmes, de ce qui se passe en ce moment, et il y a à faire. Donc ça, j'en ai fait un documentaire.
Au théâtre, à partir donc de jeudi prochain, le 17, le compte à rebours a commencé. Le 17, jeudi, vous serez...
Voilà, moi j'ai encore le trac, là j'arrive pas à m'en remettre. Je vous vous rendez pas compte, c'est 20 ans que j'ai pas joué.
C'est le trac qui commence, là, même.
Vous croyez que vous allez y arriver ou pas?
Ben, je sais pas, je suis pas sûre du tout, ça va être...
La pièce s'appelle Rabbit Hole, et nous avons donc demandé à Pascal Neveu, bonjour Pascal, merci
bonjour,
de revenir à ce micro, pour nous parler, donc vous êtes psychanalyste et psychothérapeute, pardon, vous avez écrit en 2014 un livre aux éditions Solar qui s'appelait Revivre même quand on est terrassé, justement comment vivre un drame auquel on n'est pas préparé, et quel que soit, d'abord on n'est jamais préparé réellement à un drame, mais... comment faire ce travail de résilience puisqu'on a
perdu des enfants,
Oui, en plus on parle des enfants et effectivement le deuil d'un enfant est quelque chose qui nous apparaît comme hors norme parce que effectivement normalement ce sont les personnes âgées qui doivent décéder, en tout cas dans la façon dont nous anticipons et dont nous vivons effectivement les deuils progressifs à travers notre culture. Et la pièce montre très bien effectivement tous les aspects à la fois singulier de la gestion du deuil chez la femme et également chez le père, parce que on occulte très souvent la difficulté d'un père à vivre ce deuil. C'est un cas de suicide, mais extrêmement important d'ailleurs chez les hommes, parce qu'ils ne véhiculent pas, ils ne disent pas réellement leurs émotions par rapport à ce travail de deuil. Et cette pièce est vraiment mais exemplaire sur tout ce qui est mécanisme de défense, sur tout ce qui est projection par rapport à ces deuils et la façon dont on le vit de manière singulière. Alors ensuite, effectivement, alors je vais pas rentrer dans une explication mais psychanalytique de ce qui se passe, mais entre à la fois l'annonce, la gestion dépressive d'un deuil, la façon dont on le vit, la façon dont on revit effectivement ces moments de vie en se disant à un moment donné ça n'existera plus, et comment on peut transcender tout cela et alors être justement, dans une capacité de résilience.
Quelle est la frontière entre faire son deuil, pour reprendre l'expression, et
c'est compliqué,
et éviter l'oubli, parce que c'est aussi l'une des craintes. On ne veut pas oublier.
Je crois que c'est un des plus beaux passages de la pièce. Hein, c'est la mère qui explique et qui raconte
totalement
qu'on vit avec et comment on le porte sur soi comme un manteau. C'est un des plus beaux passages.
C'est-à-dire ce qui se passe effectivement sur un plan psychique et qui passe.
Puis ça revient sans qu'on s'y attende. Enfin, c'est très très beau.
C'est ça, mais totalement. Ça revient de façon de manière lancinante. Et comment, à un moment donné, on passe du psychisme à un moment de cœur en se disant, bah voilà, j'ai vécu ces moments qui ont été hyper joyeux, qui ont été parfois mais plus douloureux également. Comment je fais avec ma culpabilité également. Et ça, c'est très bien démontré dans cette pièce. Enfin, la pièce est absolument fabuleuse. Il faut absolument y aller.
Faut pas vous louper, Julie.
Il le vend beaucoup mieux que nous. Je trouve qu'il est bien meilleur. Vous auriez dû venir dès le début de l'émission.
Mais elle démontre très bien cette pièce, réellement, tout ce qui est l'épreuve. Les épreuves du travail d'un deuil.
Oui, parce qu'il y a, il y a tous les prismes. Il y a aussi bien la sœur, il y a évidemment ce qui se passe dans le couple, il y a la sœur, il y a le regard de la mère, il y a les amis, il y a aussi le fait de se dire, est-ce que on va retrouver des amis qui, eux, ont des enfants et qu'est-ce qui va se passer? On va parler à nouveau de leurs enfants. Eux, ils vont être gênés de dire, mes enfants vont bien parce qu'ils savent bien que nous, on n'a plus le nôtre. En plus, il n'y a qu'un enfant.
Et c'est bien la problématique. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, lorsque vous êtes endeuillé, justement, le regard de l'autre, il est extrêmement important et qui fait qu'il y a un isolement, mais complet à ce moment-là. Vous avez quasiment, mais 75% des personnes qui vont être, mais totalement, mais bloquées à un moment donné au niveau de leur relation, mais sociale, amicale, etc. Et pouvoir, mais simplement, mettre en relation avec quelqu'un qui est endeuillé pour différentes façons. C'est simplement, mais lui laisser la parole, être dans une écoute, mais totalement passive. Ou en tout cas plutôt active, etc.
Mais alors quel est le conseil du psy, justement? Il faut parler.
Allez voir la pièce.
Ça j'ai entendu.
Voilà,
c'est
bien
dit. Il faut parler. Moi je dis souvent une chose.
Il faut laisser écouter.
Ayant malheureusement trop vécu, on vit toujours trop de deuil dans sa vie, mais que ce soit des amis, des proches, des membres de la famille. Voilà. Il faut continuer de citer, de dire les prénoms,
dire le nom, parce que sinon la personne n'existe pas. Effectivement, dans son existence. Donc, il faut nommer le mort, comme je le dis, à un certain moment, etc.
Et puis libérer la parole.
Et libérer la parole.
C'est ça aussi la pièce. C'est
totalement.
Des gens qui se parlent finalement.
C'est ça. On le dit parfois, peut-être de manière maladroite. Mmh. On le dit de manière très juste également. Mais en tout cas, nommer le mort est le plus important. Non, hein.
Mais Pascal, lorsqu'un couple, et je veux pas déflorer ce qui se passe dans la pièce, mais lorsqu'un couple se pose la question de savoir, par exemple, ils perdent un enfant, de savoir est-ce que on défait entre guillemets la chambre, on la transforme en chambre d'amis ou est-ce qu'on la garde en chambre d'enfant, voilà. Comment la chambre ne doit pas devenir un mausolée d'un côté et comment de l'autre on se dit on détruit l'univers dans lequel il était comme si...
Freud disait à un moment donné le plus douloureux c'est qu'il faut tuer le mort. C'est-à-dire cet acte psychique, effectivement, d'enterrer, de donner un coup de pelle, effectivement, sur la personne qui est décédée et de pouvoir l'enterrer. C'est extrêmement compliqué. J'ai accompagné bon nombre de familles qui, à un moment donné... Pardon. J'ai accompagné bon nombre de familles qui effectivement étaient là, se sont reconstruites par la suite, ont refait des enfants. Il y a eu un cas très médiatique, etc., où cette famille, et je leur ai rendu hommage dans un de mes ouvrages, ont perdu deux de leurs enfants. Ils ont refait une petite fille qui s'appelle Rose, comme par hasard, etc., et ils se sont révélés de nouveau. Ils ont reconstruit effectivement leur couple à travers cette histoire. Alors bien évidemment, est-ce que il y aura une charge sur cet enfant? J'en suis pas forcément convaincu, parce qu'ils m'ont dit également, à un moment donné, peut-être que lorsque elle atteindra cet âge où nos enfants sont décédés, il y aura cette malédiction, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on n'aura pas dit à cet enfant. Et justement...
C'est ce qu'on retrouve aussi dans la pièce. Ouais.
Totalement, je fais exprès. Et donc, mais justement, qu'est-ce qu'on doit dire... Comment on doit raconter les choses, mais simplement, mais se révéler à soi-même et dire effectivement ce qui est simplement de la vie, parce qu'on sait tous qu'on va mourir un jour.
Ah bon? Oui. Mais le plus tard possible, s'il vous plaît.
Oui, merci, tant mieux,
Pascal.
Bonne année à tous.
Merci, bonne santé. Merci, Pascal. Merci, Pascal Neveu. Tanguy Pastureau. Tanguy, bonjour.
Bonjour.
Vous trouvez que nous vivons un déferlement de violence?
Oui, et moi qui suis fragile, comme tous les génies, je le vis mal. Hein, j'ai envie de pleurer la tête sur les genoux d'Agnès Hurstel en lui disant que contrairement à Yann Moix, j'aime les femmes de plus de 24 ans de type européen. 2 mois qu'à la télé, on voit des gens se taper dessus et se faire taper dessus. C'est trop pour moi.
bienvenue avec Lila Canobé.
Bonjour.
Agnès Surstel. Daniel.
Ouais.
Albert Algou, Tanguy Bassureau et nos invités Lolita Chama et Julie Gaillet. De retour sur scène, alors vous l'avez suffisamment dit pour que là maintenant on vous interroge dessus. Moi je voulais pas vous attaquer Julie Gaillet sur « Ah ça fait longtemps que vous n'avez pas fait de théâtre, Lolita Chama, ça fait plein de fois qu'elle a fait du théâtre et pas vous, et pourquoi vous avez tant attendu ?» Mais bon, allons-y.
Et il y va quand même.
Ça fait 20 ans, oui, 21 ans même. Bah, alors j'ai eu des petits, des garçons, qui ont 18-19, donc voilà, c'était...
Vous avez des enfants de 18 et 19 ans, voilà, mais comment vous les faites pas?
Ils vont avoir 19-20 là.
Vous ne les faites pas.
si.
Vous ne les faites pas.
Et puis après j'ai produit, j'ai monté une boîte de production pour toutes ces raisons,
mais
et après
qu'il y a eu,
on a peur.
Est-ce qu'il y a eu quand même, est-ce qu'il y a eu des, voilà, ce que j'allais dire.
Après j'ai eu peur.
Il y a eu des propositions faites.
Il y a eu des propositions, donc voilà, les premières années, les enfants, donc ça c'était évident, et quand on m'a commencé à me proposer des projets, là je disais oui, et puis non finalement, je... Parce que c'est vrai qu'après 15 ans, c'était difficile de repartir. Et il a fallu Claudia Stavisky avec elle, une Argentine, à Lyon,
lyonnaise.
Qui a pris un TGV, qui est venue dire « maintenant, c'est maintenant !» Et qui m'a pas lâché la main, et qui m'a convaincue. Et aussi, évidemment, un texte, je trouve, hyper moderne, que Suzanne Sarandon, dans laquelle jouait Suzanne Sarandon, et des partenaires, je me retourne vers Lolita. Non mais vraiment, Patrick Catalifo, Lolita m'ont tenu la main et on est parti, on a sauté, j'ai eu l'impression de sauter dans le vide.
Ça demandait un travail préparatoire spécifique ou pas, tout d'un coup de retrouver les planches, de se dire est-ce que j'ai besoin de réapprendre, est-ce que j'ai...
Alors j'ai beaucoup erré dans Lyon en pleurant, je vais jamais y arriver. parce que malgré tout, oui, c'est une technique différente, c'est-à-dire qu'il faut projeter, c'est une grande salle, il faut toucher tout là-haut. Paris, donc je me disais, donc je faisais des abdos en me disant le ventre, les abdos, un peu comme le chant, quoi, vraiment de reprendre la colonne d'air du chant.
Exactement.
Et pour avoir fait du chant,
ça aide.
Donc je faisais ça, mais vraiment jusqu'à la veille, et là, Lolita a été hyper courageuse, Patrick, et je le redis, autour de moi, parce que...
Enfin, c'était... j'ai très très peur aussi, je vous rassure. Je me faire passer pour... j'ai fait plusieurs spectacles, mais j'ai quand même très peur.
Et quel est votre plaisir d'être au théâtre? C'est charnel, c'est quoi? C'est le contact plaisir, avec les planches, il y a l'odeur du théâtre, enfin, qu'est-ce que vous aimez?
Moi, j'ai l'impression d'avoir toujours vécu un peu une partie de ma vie dans des théâtres, que ce soit dans les coulisses ou sur la scène, mais j'ai un rapport à la scène très fort et très intense, et pour moi,
c'est une porte qui s'est ouverte.
Je pourrais pas ne pas faire de théâtre.
Et comment gérer
adoré ça.
Et comment gérer le quotidien, parce que
c'est dur.
Il y a des jours où on a plus ou moins bien dormi, on est plus ou moins en forme, on a plus ou moins la voix.
C'est comme un sacerdoce, le théâtre. C'est vrai qu'on a l'impression que tout s'arrête et que quelque chose est que concentré vers le soir et le fait de jouer. Après, ça dépend. Chacun le vit différemment, mais
moi,
il y a quelque chose
de prod. Rouge International, ils sont tous très contents parce qu'ils vont me voir tous les jours au bureau, alors que d'habitude, je bouge, je fais mille choses. Là, je vais être tous les jours au bureau, tous les soirs au théâtre. C'est merveilleux.
Donc, c'est la rigueur, en fait.
C'est la rigueur.
Et c'est la rigueur qui passe aussi par l'hygiène de vie.
Oui, bien sûr. Enfin, en tout cas, il faut
faire attention à ce qu'on mange, aux heures de sommeil,
Il faut pas non plus trop compter, il faut vivre un peu follement, sinon on s'ennuie.
Est-ce qu'on s'amuse aussi? Parce que au Célestin, il faut quand même le préciser, je ne l'ai pas dit, pardon, depuis le début de cette émission, c'était un énorme succès, cette pièce. Est-ce que lorsque l'on vit un succès au théâtre, déjà évidemment, j'imagine qu'on y va avec un entrain bien particulier, mais est-ce qu'on s'aventure à tester des choses différentes dans les intentions, dans le jeu, dans la mise en scène, ou est-ce qu'au contraire, on se dit, ça a fonctionné, on va pas bouger d'un poil?
Là, on a d'abord beaucoup de chance. Il y a Christiane Coendi, il y a une nouvelle comédienne qui est rentrée.
C'était Manu Garcia, qui
était là avec nous l'année dernière. Et c'est surtout le fait de le reprendre. C'est comme si, en souterrain, alors ça, je ne connaissais pas du tout. Moi, j'avais pas fait de reprise comme ça un an après. Le texte avait travaillé. Et comme tu disais tout à l'heure, Lolita, on l'a retrouvé, on a redécouvert des choses. Et puis aussi, vraiment, alors là, l'envie de s'amuser, de chercher d'autres choses. Donc, on a pu faire ça. Et maintenant, tous les soirs, c'est différent puisque vous êtes différents tous les soirs.
C'est ça, c'est un jeu et c'est à deux, quoi.
Bien sûr, le public, on réinvente, que ça soit un succès ou pas.
Je sais plus quel comédien disait un jour en sortant de scène, le public a été bon ce soir.
Mais c'est cette sensation, c'est un
partage avec le public. À partir du 17 janvier, soyez bons, donc si vous allez au Théâtre des Bouffes Parisiens, parce qu'elles seront efficaces sur scène, ça s'appelle Rabbit Hole au Théâtre des Bouffes Parisiens. Lolita Chama et Julie Gaillet sont nos invités jusqu'à 12h30. Voici Tanguy Pasture. Tanguy, la violence est partout.
Oui, fini le dialogue, les mots, ces vieux trucs qui nous distinguaient du mammouth laineux. Désormais, on tape partout, tout le temps. La France n'est plus qu'un pauvre ring de catch, mais sans les nuques longues et les moules bites fluo. Il y a 3 jours, on a découvert Christophe Détinger, un boxeur. Pas de sous-vêtements, ça c'est Calvin Klein, le sportif. Et Détinger, c'est pas un rigolo, il est double champion de France des lourds légers. Lourds légers, c'est comme Tex quand il raconte une blague après avoir perdu 15 kilos. Donc samedi, on l'a vu en live sur BFM pour son combat contre un CRS qui a été nul. Hein, du temps de Benalla, le type arrivait, vous bloquez la respiration avec le petit doigt en vous murmurant à l'oreille « Dis que tu aimes Macron ou je te trucide », un coup du lapin et vous foutez au cimetière de Pantin. Mais là, les CRS, ils ont un bouclier transparent, un casque de VTT et le petit gourdin de Guignol. Vous lâchez un champion de boxe là-dedans, en 4 secondes, il éclate tout le monde et la compagnie entière finit chez Planète Sushi dans une boxe. Donc Détinger, qui est censé pratiquer son sport dans un cadre privé, parce que sinon, la prochaine manif, on va voir des professionnels du curling attaquer les CRS avec des balais. Et bah, taper comme un bourrin, y compris sur un CRS à terre, parce qu'il n'y a plus de règles. C'est comme si Nicolas Hulot passait au-dessus en ULM et larguait sur les flics l'ensemble du stock de shampoing qu'il n'a pas utilisé depuis 25 ans. Frapper un homme à terre, mais c'est le comble du manque de courage. Alors quand en plus on est un boxeur, c'est la honte absolue. Et puis Griveaux nous fait tout un truc pour sa porte en bois, qu'on lui a défoncé comme s'il était nouf-nouf dans les 3 petits cochons, en disant « Je suis la République, m'attaquer c'est attaquer la France ». Lui, il se prend pour un pays. Hein, c'est le seul qui, sur le frigo, regarde la France en magnet perdodu et dit « Purée, je suis quand même beau ». Alors que taper sur un CRS qui lui aussi représente la République, mais pour 2000 boules par mois, c'est largement aussi grave. Donc Christophe Détinger a fait une vidéo pour s'expliquer. Il a dit « J'ai la colère du peuple en moi ». Lui, c'est Jeanne d'Arc, sauf qu'au lieu d'entendre Dieu, il entend tous les gilets jaunes. Hein, vu le nombre qu'il y en a, ça doit être un sacré foutoir dans sa tête. Une sorte de live d'Imouvrini dopé à la Red Bull, mais en plus harmonieux. Pas étonnant qu'il tape, il devient fou. Et comme le seul repère dorénavant, c'est la violence, ben il est en train de devenir une idole. Il y a une cagnotte Litchi pour lui qui a déjà récolté 120 000 euros. Et il reste 42 jours pour donner. Donc à la fin, le gonze va avoir le double du Téléthon. D'ici 3 mois, il est à Dubaï à bouffer des steaks en or avec les Ribéry. Jacqueline Moureau, là, qui est en train de monter son parti, si elle ouvre une cagnotte, elle aura 24 euros. Moins qu'Herbert Léonard s'il en crée une pour son prochain album. Parce qu'elle ne tape pas. Ce qui rassemble les gens, c'est la violence. Moi, j'ai coupé BFM. On voit plus que des types se taper dessus. Je mets le JT de Jean-Pierre Pernaut. On a 30 secondes sur les manifs, 27 minutes sur la galette des rois. Ben, je préfère.
Donc, d'après vous, cette violence atteint tout le monde?
Ben oui, parce qu'en face, on peut pas dire non plus qu'ils sont habités par l'âme de Gandhi qui serait tapé toute l'armoire à bœufs d'Yannick Noah. Didier Andrieux. C'est comme Julie Andrieux, sauf que lui fait pas tout le repas, mais juste les tartes. À Toulon, samedi, c'est un commandant de police qui frappe un manifestant non armé plaqué contre un mur. Un type comme Détinger qui voit ça, direct, la colère du peuple l'envahit. Il entend Éric Drouet et son sosie Alexis Corbière lui crier « Vas-y, tape !» et il y va. Heureusement, on n'a pas tant de champions de boxe que ça, mais si un champion d'escrime demain s'y met, mais ça peut tourner au carnage. Didier Andrieux a été quand même contesté en interne pour avoir frappé un major en 2015. On n'est pas sur le profil d'un collectionneur de posters de chatons qui pionce avec une peluche d'emoji caca en suçant son pouce. Et de manière générale, ça fait 2 mois que même les gilets jaunes qui cassent rien prennent des lacrymos et des flashballs dès qu'ils font plus de 20 mètres. Ils vivent dans la fumée, telle la femme de Snoop Dogg. Donc à chaque violence d'un côté, il y a plus de violence de l'autre. Je sais pas où on va, mais le combat Boubacaris à côté, on va avoir l'impression de voir deux teckels qui se lèchent. Hein, parce que ces deux crétins veulent toujours se battre. Hein, ils sont suivis par des milliers de jeunes s'en servant comme modèle, mais rien à faire, l'époque veut ça. Il faut qu'ils se tapent dessus, ces bœufs. 38 et 42 ans, ils ont. C'est un combat de daron, la guerre des papas. Et dans 30 piges à l'épate du flot pourri, ils seront toujours en train de se disputer pour un rap de smoule. Mais enfin, mesurez-vous le sexe, les gars, ça ira plus vite. Quitte à être très vieux, autant y aller à fond. Néandertal, quoi. Onk, onk. Bref, c'est tendu. Et le truc le plus subversif en 2019 est de se faire des bisous, d'avoir du respect les uns pour les autres. Si Griveaux, au lieu de dire on va encore être plus radicaux dans les réformes, gna gna gna, se pose et réalise qu'il y a 1 million de travailleurs pauvres en France, plus les chômeurs, plus les classes moyennes dont le niveau de vie chute, il arrêtera de parler comme ça. C'est un être humain. Il sait ce que gagnent les gens à son boulot en ce moment. Il discute avec des menuisiers. Si de leur côté, les manifestants qui crament une péniche se rendent compte qu'à part l'équipe de Thalassa, ça parle à personne, ils vont stopper tout ça. Et en même temps, on ne parle que des violents, jamais du policier qui a empêché Andrieux de s'acharner sur le manifestant, jamais des gilets jaunes qui, chaque samedi, s'interposent pour essayer d'éviter la casse. C'est pour tous ces gens qu'il faut ouvrir une cagnotte. Peace and love.
Bravo.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
Nous parlons de cette pièce au Mouv' Parisien à partir du 17 janvier prochain qui s'appelle Rabbit Hole, qui est un clin d'œil fait à ces univers parallèles. C'est même carrément la baseline du titre, pour que l'on comprenne bien. Si je peux me permettre, moi j'ai pas vu la nécessité de la réflexion sur les univers parallèles. J'ai aimé la pièce et la manière dont chaque personnage vivait sa vie, sa folie, son déni, sa peine, sa vie en particulier. La notion d'univers parallèle, c'est un alibi final, non?
C'est
Lolita.
Je sais pas si c'est un alibi final, je crois que c'est plus que ça quand même. C'est quand même
Albert, non mais dis-moi ce que tu en as pensé, Tom.
C'est aussi le centre de tout ce qu'on raconte, c'est-à-dire c'est ces personnages qui sont dans leur quotidien, dans une vie concrète, et il y a cet aspect beaucoup plus abstrait et un peu plus mystique.
C'est la chambre verte.
Et même avant ça,
l'univers parallèle. C'est là où se trouvent les gens qu'on a aimés et qui ne peuvent jamais mourir. C'est pour ça. Une fois ici, il y avait un comédien qui avait dit très justement, je me souviens plus qui c'était, que faire son deuil, ça voulait rien dire. Parce qu'on ne finit jamais un deuil.
C'est Philippe Delerme.
Il disait très justement.
Il avance avec nous, mais.
Pas par provocation, mais pour dire que, on vit avec ces personnes disparues sans masochisme, mais on ne les oublie jamais, même si la vie continue, c'est banal ce que je dis.
Et puis les univers parallèles, c'est aussi
ce monde imaginaire qu'elle elle a besoin de ça, cet imaginaire-là, cette chambre verte.
Et puis c'est aussi les univers de chacun des personnages par rapport au deuil, parce que finalement, tout le monde ne le vit pas de la même manière, tout le monde ne l'envisage pas de la même manière, donc avant même la résolution finale, il y a déjà des univers parallèles qui se côtoient, qui peinent parfois à converser,
et chacun est dans son monde.
Et alors cette pièce, lorsque vous l'avez lue, vous avez toutes les deux ressenti sa dimension comique ou pas?
Alors moi je l'ai lu en anglais d'abord et je l'ai vraiment ressenti ce rythme, donc cette écriture anglo-saxonne. Et toute la difficulté, on en parlait tout à l'heure, c'est de la traduction, c'est la première fois qu'elle est traduite en français. Et de trouver nous cette énergie à l'américaine. Alors on a des noms, c'est aussi pour ça que sur les prénoms on a un peu du mal, mais c'est donc Becky, moi, Izzy, toi.
Izzy pouvant être Isabelle, un diminutif
d'Isabelle. Isabelle. Écriture américaine et très moderne. Et donc voilà, comme moi j'ai pu travailler des contemporains américains.
Et vous, Lolita, vous étiez rendu compte que votre personnage était aussi.
Je crois qu'il faut jamais trop se rendre compte de ce qu'est un personnage qu'on va jouer. Donc j'ai. Mais déjanté, bien sûr. Drôle, je sais pas. Ça c'est.
Oui, clairement.
Oui, clairement. Je pense à fleur de peau, c'est-à-dire. Comme une petite fille qui a besoin d'être rassurée, qui a besoin de parler fort, de montrer ce qu'elle est et tout ça. Après, ce qui est drôle au théâtre, je crois que c'est pas forcément
ce
qu'on
croit. Sur scène, d'ailleurs. Elle est complètement folle. Elle est géniale, mais absolument.
Vous aimez ça, Lolita. Vous aimez faire rire aussi.
Je crois.
Je vous confirme.
Je suis pas forcément très drôle dans la vie, Nagui.
Si, ouais, la preuve, voyez, même quand vous le dites, c'est drôle.
C'est ça qu'on aime.
Voilà. C'est toute la différence avec Daniel Morin.
Allez, coup de chapeau! Coup de chapeau à France 3 et aux équipes de Plus Belle la Vie. Eh oui, les amis, c'est une belle leçon de rebondissement, voire de recyclage, qui nous est proposée. Pour redonner un petit coup de fouet à la saga provençale, les auteurs font revenir deux personnages. Pas con. Fallait y penser et surtout, fallait oser. Bientôt, dans Plus belle la vie, on va retrouver, pour notre plus grand bonheur, Sacha et Victoire. Le coup de génie, c'est que les deux personnages avaient disparu pour une raison qui, habituellement, empêche de faire un comeback. Cette raison, c'est la mort. Eh ben non, dans Plus belle la vie, rien à foutre. Petit rappel, Sacha était quand même mort dans un accident d'avion et Victoire s'était suicidée. Eh ben non, il n'était pas mort. Bientôt dans Plus belle la vie, le retour aussi incroyable que chelou de deux personnages légendaires de la série, Sacha et Victoire. Tout le monde croyait que Sacha, après s'être craché en avion et avoir eu son corps disloqué en petits bouts, serait indisponible pour la vie. Eh ben non. On aurait pu croire que Victoire, après s'être donné la mort, aurait été indésirable au royaume des gens qui bougent. Eh ben non. Mais comment quoi alors? Eh ben figurez-vous que... En réalité, ils étaient tous les deux cachés. Cachés? Mais où ça? Eh ben, sur une île déserte. Cachés sur une île déserte? Mais pourquoi? Eh ben, pour échapper à la justice. Oh, trop bien vu, les gars. En même temps, on n'est pas à l'abri que la formule séduise ailleurs. France Inter Flash spécial, on vient de l'apprendre, coup de théâtre politique et possible grand retour, on le croyait mort, rattrapé par ses électeurs décédés, mais en fait non, l'ancien maire de Paris, Jean Tiberi, est bien vivant, il est même candidat pour les élections municipales de l'année prochaine, mais où était-il tout ce temps? Eh bien, il était sur une île déserte, mais que faisait-il sur une île déserte? Il était planqué pour échapper à la justice. On va peut-être même assister à une déferlante de retours improbables. Europe 1, à suivre 6h, 22h, Jean-Marc Morandini, 16h d'antenne non-stop pour sauver la station. On le croyait mort depuis 3 ans, mais en fait non, Jean-Marc était parti se cacher sur une île déserte. Mais pourquoi parti sur une île déserte? Eh bien, pour échapper à la justice. Et en parlant de personnes décédées, quid du retour de Bouvard aux grosses têtes d'RTL ou de Jean Roucas sur TF1? Eh ben, c'est possible. On m'a dit qu'en fait, il n'était pas vraiment mort. Ah, à demain.
Merci. La bande originale. Avec
tu sais qu'il y a toute une théorie aux États-Unis où ils disent qu'Elvis Presley n'est pas mort, ouais. Il vit sur une île paradisiaque.
Et Claude François est en Amazonie, vous savez.
Isolé.
Avec Freddie Mercury.
Et il va faire des bœufs. Ouais. Incroyable.
Des
bœufs. Des bœufs, on dit. Rabbit Hole, David Lindsay Hubbard, qui est un auteur prolifique. Il a beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès. Ce prix Pulitzer dont vous parliez aux États-Unis, ouais. Et il est régulièrement joué, et y compris transformé au cinéma. Ce qui est le cas de Rabbit Hole, oui.
Ça avait été incarné par Nicole Kidman, ouais. Dans Le feu sous la glace de Nicole Kidman, la belle Nicole Kidman.
Et dans, ouais. Dans ce cas-là, on revoit justement les versions précédentes pour travailler.
Alors moi, je déteste ça. Même j'avais joué dans Les Rois maudits, j'avais eu cette chance, et j'avais pas voulu revoir Les Rois maudits que j'avais vu il y a très longtemps. Je pense qu'il vaut mieux pas revoir, donc je reverrai après la pièce.
Qu'a apporté Claudia Stavisky, à part vous convaincre déjà de venir au Célestin et de travailler, quelle est l'importance de la mise en scène?
C'est la metteur en scène, c'est elle qui nous a réunis, c'est elle qui nous donne cette énergie, qui a son point de vue. Et sur la mise en scène, elle a voulu mettre des vidéos, faire tout un travail très très intéressant et cinématographique, avec
et
un décor
aussi,
magnifique, ouais. Qui va petit à petit se déluder, évoluer. On va dire, évoluer. Donc vous verrez, voilà, très contemporain. Mais ça peut commencer comme un film de cinéma, d'où l'intérêt aussi d'attaquer sur la pièce. Et puis ça part comme une sitcom presque aussi, hein. Plus belle la vie.
Ouais, ouais, ouais. Tout le monde
ça part comme ça, ça
comme
commence
série.
Comme ça.
Enfin, c'est des personnages
ouais,
comme
de
je
série
disais tout
américaine.
À l'heure aussi,
et puis
très précis comme ça.
On s'amuse et on part, et voilà, et à la fin, tout est épuré, on est mis à nu.
Est-ce qu'on peut proposer...
Pas physiquement,
non. Il fallait pas continuer la phrase. Tout le monde se serait précipité encore plus.
Le théâtre, c'est une mise à nu.
Est-ce qu'on propose des choses, Lolita, quand on est comédienne? Est-ce qu'on propose des tenues vestimentaires? Est-ce qu'on propose un tic de langage, une voix, un geste?
Un déguisement.
On propose...
un déguisement en chat.
On propose ce qu'on est déjà, ce qui est déjà beaucoup, quelque part. Enfin, un personnage, au fond, c'est quand même seulement soi-même. Donc si ça avait été une autre actrice, le personnage aurait été tout autre. Et c'est aussi ça, le théâtre, c'est des personnes qui arrivent sur une scène et qui forment un groupe et qui créent quelque chose ensemble. Et c'est ça qui est merveilleux au théâtre. C'est une rencontre d'êtres humains qui créent cette... Et nous, on s'est rencontrés et ça crée cette famille... Et ça crée cette pièce, du coup.
Et ça va se jouer dans un très beau théâtre, hein. Bouffe Parisien, on le dit pas assez, mais c'est l'un des plus beaux théâtres parisiens.
Le théâtre de Brialy, moi j'avais connu Brialy là-bas, au Bouffe Parisien, près de l'Opéra.
Donc bien sûr, on propose...
Et je crois que c'est la famille Offenbach qui était au Bouffe Parisien.
Ouais.
Je crois qu'ils sont même encore propriétaires des...
Monsieur qui dit oui dans le public, donc... C'est confirmé.
C'est monsieur Offenbach lui-même.
C'est confirmé, monsieur Offenbach.
Et on parle des personnages qui collent à la peau, souvent au cours d'un tournage. Là, la répétition des représentations, est-ce qu'on part un peu avec son personnage ou alors que c'est une sorte de théorie un peu fumeuse qu'on peut tenir sur les comédiens et les comédiennes?
Ça dépend de chacun.
Ouais. Et pour vous, alors?
Tu vois, en cœur. Moi, j'ai plutôt tendance à le laisser derrière la porte. Je rentre, je ressors d'un personnage et vraiment, je fais ce travail et que j'aime beaucoup faire. Parfois, il me manque, les personnages, et là, c'est très agréable de pouvoir la retrouver,
oui,
de le replonger.
Comme ça doit être agréable de la laisser aussi dans
sa loge. Et c'est très agréable aussi de la laisser dans la loge.
Alors que Lolita aime bien donner encore des coups de boule dans des bars.
Non, pas du tout. Je suis beaucoup plus sage que mon personnage.
Vous serez à l'affiche le 13 février prochain, Lolita Chama, de Moi, Maman, Ma Mère et Moi, de Christophe Lemann.
C'est un titre...
Chargé.
Chargé.
Chargé, ouais. Mais on retrouve le Me, Myself and I à l'américaine. Quel personnage êtes-vous aux côtés d'Olivia Cote et Philippe Robaud?
C'est encore un film. Enfin, c'est encore
la famille dysfonctionnelle.
Sur la famille dysfonctionnelle.
Non, sur un enterrement.
Sur un enterrement. C'est une comédie assez triste en même temps sur deux frères et deux sœurs qui se reconstruisent après la mort de leur mère. Moi, je fais la petite sœur de Grégory Montel, Olivia Cote et Philippe Rebaud. Petite sœur très fragile et très énervée.
Et Grégory Montel qui était mon agent dans 10%.
Exact, voilà. Exact.
Et qui en ce moment à l'affiche de l'heure de la sortie de Sébastien Marnier.
Vous serez ensuite Lolita Chama à l'affiche de At Eternity's Gate, un film
de Julian Schnabel, un homme là avec beaucoup d'hommes.
Aux côtés de William Dafoe, Emmanuel Seigné et Nils Harestrup.
Absolument.
Et là, quel est votre personnage?
Mon personnage, je fais un modèle que Willem Dafoe, enfin que Van Gogh peint, qui rencontre sur une route et qu'il a envie de peindre. Voilà. Et c'était un tournage merveilleux de tourner avec lui, parce que c'est un grand acteur. Et Julian Schnabel est un personnage étonnant.
Plasticien, artiste.
Incroyable. Et voilà, donc,
Julie Gaillet, vous êtes à l'affiche du Genre de ma vie de François Dezania avec Cadmerade. Ça, c'est pour la comédie. C'est depuis.
Cadmerade.
depuis la mi-décembre. Qu'est-ce qui vous attend pour 2019 en.
J'ai joué dans une série. Ça y est, voilà, on parlait de ça avec Marcello Mastroianni. Donc, une série pour France Télévisions avec le beau Bruno Debrant et Thomas Jouannet. Une femme entre deux hommes. Voilà, un peu. Une histoire d'amour compliquée.
D'accord, vous serez à l'affiche de C'est quoi cette famille 2, le deuxième volet.
C'est quoi cette mamie avec Chantal Latsou qui donc joue
famille,
ma mère et qui est donc la grand-mère. C'est quoi cette mamie et Julie Depardieu qui est ma sœur. Et voilà, c'est la suite et on s'est bien marré là encore une fois dans la comédie.
On vous retrouve évidemment à partir du 17 janvier, la semaine prochaine, jeudi prochain. Jeudi en 8, comme on dit.
Jeudi prochain.
Wouf parisien pour Rabbit Hole. Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Bien sûr, désolé pour tous les enfants qui nous écoutent et qui, sur le modèle de Lolita Chama, vont demander à leurs parents d'aller à l'école en chat. Alors, c'est vrai, ça peut être relou, mais vous savez, tous les jours, Nagui vient au bureau avec le comportement d'un bonobo et ça ne choque vraiment plus personne. Désolé pour le psy de Lolita et qui chaque semaine se coltine ses problèmes d'âge, de chat, de harpe, d'ascenseur et j'en passe. Et ça, c'était avant d'avoir passé une heure et demie avec Nagui. Courage Lolita et surtout, courage docteur. Désolé pour les comédiens, la metteuse en scène, l'auteur de la pièce et désolé pour les spectateurs qui ont déjà réservé leur place pour Rabbit Hole et qui ont découvert que les deux comédiennes principales n'étaient pas prête, mais du tout.
Pas de soucis,
il reste 10 jours. En même temps, 10 jours, c'est vrai que ça fait juste. Enfin bon, on sait jamais, il y a des miracles.
Il y a que 60 représentations, hein, donc dépêchez-vous de vous rendre au Bouffe Parisien.
Merci Nagui.
Ben oui, 60, mais non, mais il n'y aura pas de la place pour tout le monde, c'est ce que je veux dire. Mais il a beau être beau et grand ce théâtre, il faut y aller. Demain, je pense que vous pouvez très bien nous écouter, Julie Gaillet, parce qu'on n'a pas parlé d'une de vos passions, le football. C'est Didier Deschamps qui sera notre invité demain.
Formidable.
On n'est pas peu fiers de cette
exclusivité. Mais je produis un documentaire sur les femmes, sur la Coupe du Monde et sur les joueuses, voilà.
Génial.
Les footballeuses.
D'autant que la Coupe du Monde débarque en France.
La Coupe du Monde est en France, en juin, et c'est le 7 juin le lancement. Donc voilà, moi je suis...
Parfait.
Je produis ce documentaire.
Demain, donc rendez-vous avec Didier Deschamps. Bonne journée, bonne matinée. À suivre. Merci. Les carnets de campagne de Philippe Bertrand. Bonjour Philippe.
Salut Nagui, bonjour les amis. C'est vachement bucolique la programmation cette semaine.
T'as
trop de lapins aujourd'hui, des champs demain.
Super.
Et mercredi, vous avez prévu quoi?
Non, c'est demain mercredi, bon. C'est des champs.
Salut les amis.
Bisous.